pendant les vacances, on a parlé d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui est un culte raisonnable. Ce matin, on va parler de nos dons comme un parfum de bonne odeur. Alors, j'ai eu en avant-première un rapport financier de notre trésorière qui montre que malgré un mois d'août exceptionnel, nos finances sont en retard de 8% sur les prévisions. Enfin, si vous êtes là dimanche prochain à Valence, vous en saurez certainement un peu plus. Alors avant ou au début de la reprise de nos activités et de nos occupations habituelles, je voudrais revenir sur nos dons comme un parfum de bonne odeur. Et pour cela, on va lire dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, du verset 10 au verset 20. Philippiens 4, 10 à 20. Je vais lire dans la version du Semeur. Je me réjouis comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous en n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais vivre aussi dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait, Philippiens, de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par deux fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu qui lui fait plaisir. D'autres versions disent un parfum de bonne odeur. Ainsi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Or, ce texte nous donne certainement la raison personnelle et circonstancielle de cette lettre. Paul écrit aux chrétiens de la ville de Philippe afin de les remercier pour un soutien financier, soutien qu'ils lui ont envoyé par l'intermédiaire de leur représentant Épaphrodite. Alors, si c'est l'occasion précise de cette lettre, on pourrait s'étonner que Paul ne commence pas la lettre par un mot de remerciement, mais qu'il le laisse pour la fin. Donc peut-être que les codes de politesse n'étaient pas les mêmes à l'époque que maintenant. Allez savoir. Cependant, peut-être, Paul veut dire aux Philippiens plus que merci. Et que ses lecteurs ont besoin du contenu de tout le reste de la lettre pour bien saisir le rôle et la signification d'un don d'argent d'une église locale à un apôtre, apôtre et prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, qui se trouve en prison. En effet, on voit que Paul pèse ses mots et prend soin de situer ce soutien financier dans le contexte relationnel entre lui, l'apôtre, l'Église de Philippe et Dieu. Alors on va essayer de suivre sa pensée en puisant aussi dans le reste de cette épître pour bien comprendre, dans l'espoir que cela nous aidera aussi à baliser le sujet, toujours un peu délicat, de l'argent dans l'Église. Alors, on va explorer trois principes que Paul énonce. D'abord, le don comme expression de notre communion à l'Évangile. Et puis le don qui respecte la liberté de parole de l'apôtre. Puis le don qui est offrande à Dieu et aussi don de Dieu. Alors pour commencer, le don expression de notre communion. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi, dit Paul dans une autre version. Est-ce que par là on peut entendre un reproche voilé ? Peut-être que pour Paul, le temps a dû lui sembler long en prison et il commençait à douter du soutien de ses frères. Mais il se corrige et il leur trouve des excuses. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Et là, la joie l'emporte. Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans toute cette épître, l'invitation à la joie est une caractéristique forte. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dit-il. Il le dit à plusieurs reprises, comme un peu un refrain. Et le plus souvent, cette joie est associée à l'affection fraternelle et au lien fort entre Paul et les Philippiens. Tout au début de sa lettre, il précise « Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle. » C'est ce partage, cette participation commune, cette communion qui est source de joie. Et il est probable déjà que dans cette expression se trouve une allusion à leur don, à leur soutien. Leur soutien, c'est ainsi que se manifeste, accompagné de marques d'affection personnelle, leur amour, leur solidarité, leur mobilisation pour l'Évangile de Christ. Soutenir l'apôtre et sa prédication, même quand ils se trouvent en prison, montre leur communion aussi aux souffrances du Christ. Ils participent ainsi à l'ensemble. Ils participent ensemble à l'Évangile de Christ crucifié, humilié. Paul rappelle le commencement du soutien financier, au commencement de la bonne nouvelle, en partant de chez eux en Macédoine. Et que cela continue maintenant, avec ce champ de mission réduit, puisqu'il est en prison, c'est réduit à ses visiteurs et aux alentours directs de la prison. Ça montre leur persévérance dans cette communion avec l'apôtre, malgré les difficultés. Cependant, Paul, au début de cette lettre, prend soin de les informer que le travail de l'Évangile continue. C'est au chapitre 1er, au verset 12. « Je souhaite que vous le sachiez, mes frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de la bonne nouvelle. En effet, tout le prétoire, comme par ailleurs, il est manifeste que c'est pour le Christ que je suis prisonnier. » les Philippiens prennent leur part dans la nouvelle mission de l'apôtre par leur soutien, ce soutien qui probablement fortifie et encourage Paul dans la proclamation de l'Évangile, parce qu'il y voit l'œuvre de Dieu qui crée et tisse des liens de fraternité, de solidarité, de partenariat, de partenariat pour l'Évangile. C'est ainsi qu'il peut leur dire « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » La solidarité dans son épreuve est pour Paul signe de l'authenticité de l'engagement des chrétiens de Philippe et de la fidélité de Dieu. Ainsi, on peut conclure que les liens fraternels et le soutien financier forment un tout dans la solidarité en vue de la proclamation de l'Évangile. Et cela, pas seulement à court terme, mais à long terme, en renouvelant nos échanges fraternels et notre soutien. Or, cela doit nous aider quelque part dans nos choix et nos priorités individuellement et en tant qu'Église, quant à la destination et la qualité relationnelle qui accompagne nos soutiens. Ensuite, on va voir que le don financier respecte la liberté de l'apôtre. Malgré toute cette insistance sur les liens qui les unissent, Paul semble pris par un excès d'individualisme dans ce texte. Du coup, il déclare son indépendance par rapport aux chrétiens de Philippe. Il précise « Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. » Et plus loin, en effet, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance. Et je pense que Paul veut affirmer là auprès des chrétiens qu'il soutient que le sens de leur don n'est pas seulement de le soutenir dans ses besoins personnels. Il ne dépend pas de leur argent. Paul dépend de Dieu. Si leur don manifeste une communion à la vocation de prédication de l'Évangile, cette vocation, sa vocation, n'est pas conditionnée par la source de financement. Le rôle de l'évangile de Philippe, rappelle Paul, avait été exceptionnel. Elle était la seule église à l'avoir soutenue. Vous remarquerez que Paul ne reproche pas aux autres leur manque de soutien. Il souligne seulement cette pratique inhabituelle par ces chrétiens de la ville de Philippe. Il ne recherche pas les dons. On apprend par ailleurs son principe de ne pas être à la charge de jeunes églises, les fruits de son ministère apostolique. Il dit, par exemple, aux Thessaloniciens, « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous, nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. » Et cette notion-là, on la retrouve assez fréquemment dans les lettres de Paul. Alors, pourquoi cette attitude ? D'abord, Paul, il semble qu'il veut éviter toute accusation de vivre au crochet des églises qu'il fondait, ou que l'on pense qu'il cherchait, par la prédication de l'Évangile, à assurer sa subsistance, voire son enrichissement personnel. Et ce soupçon de la part de la société envers les prédicateurs et les évangélistes, je pense qu'elle n'a pas disparu. Il convient donc d'être rigoureux et honnête dans ce domaine. Même si, par ailleurs, Paul défend le principe que ceux qui annoncent la bonne nouvelle puissent vivre de la bonne nouvelle. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile puissent vivre de l'Évangile. Puis je pense que, peut-être plus théologiquement, Paul veillait sur le principe de la gratuité de l'Évangile. En aucun cas, il ne voulait qu'il y ait une confusion entre la réception de l'offre du salut par la foi seule et une quelconque contribution financière. La grâce ne peut être que gratuite. Or, cela peut poser des questions en ce qui concerne l'organisation d'événements dont le but principal est la prédication, dans et en dehors des églises. Comment séparer soigneusement la question du financement des frais engagés et l'offre gratuite du salut en Jésus-Christ? Et c'est une question importante qui doit être évaluée clairement. D'autant que notre culture actuelle est tellement envahie par le commercial. Comment faire pour que l'évangile de Jésus-Christ ne soit pas perçu comme un produit sur le marché, comme un autre produit, sur le marché du bien-être peut-être. Comment présenter sa gratuité radicale et sa valeur inestimable à nos contemporains, sans aucune confusion? Cependant, dans ce texte, je pense que c'est plutôt le principe de sa liberté que Paul souligne. Celui qui a reçu de la part de Dieu la vocation de prêcher l'Évangile n'est pas lié à une église locale particulière, mais au Christ. Ce n'est pas l'arrivée ou non d'un financement ou de conditions financières favorables qui détermineront son activité, mais sa communion avec Christ. Le contraste vivre humblement ou vivre dans l'abondance rappelle le Christ abaissé et élevé qui se trouve au cœur de l'Épître. Et le témoignage de Paul que sa vie est maintenant de le connaître, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Or, je pense qu'il serait audacieux de comparer le ministère d'un ancien, d'un responsable ou d'un pasteur aujourd'hui à celui de l'apôtre. Ils sont appelés à une collaboration certainement plus quotidienne et dans le long terme avec l'Église locale et n'ont certainement pas l'autorité apostolique. Néanmoins, la liberté de parole reste importante. Ce n'est pas parce qu'un pasteur est salarié d'une église, ce qui est le cas dans beaucoup d'églises évangéliques en France, qu'il est aux ordres de la communauté. En tout cas, en ce qui concerne son enseignement et ce qu'il dispense. Il est lié par sa vocation de prêcher la parole du Christ avec fidélité, toujours avec fidélité. Et de la même manière, ce n'est pas parce que nous proposons un soutien financier à une église ou à une œuvre partenaire ou à un missionnaire, en France ou à l'étranger d'ailleurs, que nous pouvons nous octroyer le droit de contrôler sa mission et sa prédication. L'argent, c'est le serviteur de l'Évangile, c'est pas son maître. Il doit créer des relations de partenariat et pas des relations de force. Enfin, le dernier point, le don qui est une offrande à Dieu est aussi un don de Dieu. Paul inscrit le geste des Philippiens dans une relation tripartite, dont Dieu est la personne centrale. Paul et les Philippiens n'ont pas une relation purement horizontale. Paul introduit une verticalité essentielle dans cette relation. Pour passer des Philippiens à Paul, l'argent du don passe en quelque sorte du ciel à la terre, puis de la terre au ciel. Dieu ne dépend pas de l'offrande des uns pour donner aux autres. Mais il est juste qu'il interprète ce qu'il a reçu comme un don de la part de Dieu. « Je suis comblé », dit-il. Et de façon significative, il utilise ce même verbe concernant les Philippiens. « Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse. » Mon Dieu m'a comblé de vos dons, et par votre don, vous comblera aussi. C'est Dieu qui nous comble. Toute la générosité et l'abondance reçues par un missionnaire ou une œuvre de la part de nos frères et de nos sœurs viennent de sa main. C'est comme ça que Paul reçoit le don des Philippiens, sans pour autant minimiser leur générosité. Bien au contraire, il interprète leur geste comme étant d'abord une expression de leur gratitude envers Dieu et de leur amour envers Dieu. Il sent la bonne odeur d'une offrande faite à Dieu. Et ce langage direct nous vient de l'Ancien Testament. Ce n'est pas la première fois que, dans cet épître, il utilise le langage du sacrifice offert à Dieu. Alors, il ne s'agit pas évidemment d'interpréter le don d'argent comme une offrande pour le pardon de péché, mais plutôt comme une offrande de reconnaissance ou de consécration à Dieu, dans lequel, si vous vous souvenez, il existait des prescriptions dans l'Ancien Testament. Et Paul, là, parle de façon certainement plus poétique que technique. Alors, on le comprend, le don d'argent qu'il a reçu est avant tout l'expression de la foi, l'expression de l'amour et de la reconnaissance des Philippiens envers le Dieu qui les a comblés de toutes les richesses. Or, dans la deuxième épître aux Corinthiens, que certains mettent en parallèle un peu avec l'épître aux Philippiens, Paul encourage la participation à une collecte en faveur de l'église de Jérusalem où sévit la famine. Il rappelle « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riche. Grâce soit rendue à Dieu pour son don incomparable. » Or, c'est en raison de notre gratitude envers Dieu que les Philippiens et nous, nous donnons un peu de notre argent à Jésus-Christ qui s'est fait pauvre pour notre plus grande richesse. Alors que notre Dieu qui nous a comblés nous aide à vivre le don de cette façon évangélique, dans tous les sens du terme. Tous les sens du terme, grâce à la communion et dans la communion. Et juste pour finir, le verset qui finit le texte que nous avons lu, « À notre Dieu et Père, soit la grâce dans tous les siècles. » Amen.